Bienvenue sur Terre Commune, une émission bimensuelle sur votre radio CFM qui parle de biodiversité, d'écosystèmes et de nature sauvage. Je suis Anthony Vieillard, animateur et naturaliste de l'entreprise Vulgaris Terra. Nous nous retrouvons tout au long de l'année afin de parler des écosystèmes qui nous entourent, des espèces animales, parfois végétales, des oiseaux, des lieux secrets qui peuplent encore notre campagne. Toutes ces thématiques autour de notre nature sauvage ont pour but de vous faire découvrir et de vous sensibiliser à tous ces êtres vivants qui nous entourent. Aujourd'hui, nous allons parler de Mélèce Mélèce, de son nom latin, plus connu sous le nom du blaireau d'Europe. Le blaireau d'Europe est un mammifère terrestre appartenant à la famille des mustélidés, comme par exemple la martre des pins, la fouine, la belette ou encore même la loutre d'Europe. Il est facilement reconnaissable grâce à son masque facial noir et blanc. On dirait un petit peu un prisonnier, souvent on le voit comme ça dans les dessins animés. Il est constitué de deux bandes noires qui partent du museau jusqu'aux oreilles. Son corps est massif, trapu, avec des pattes puissantes et des griffes impressionnantes adaptées au creusement. Un adulte mesure entre 60 et 90 cm de long, sans compter la queue qui peut atteindre 20 cm. Il pèse en moyenne 8 à 15 kg, mais à l'automne, le blaireau rentre dans une phase d'hyperphagie, c'est-à-dire qu'il va se nourrir d'autant plus, afin de constituer assez de réserves de graisse pour passer l'hiver sans trop sortir de son terrier. D'ailleurs, le blaireau n'hiberne pas, il hiverne. Cela signifie qu'il ralentit son activité sans jamais rentrer dans un sommeil profond. Au moindre redout, il peut ressortir arpenter la forêt afin de se nourrir et de faire ses besoins. Lorsque l'on observe une empreinte de notre ami le blaireau, on peut distinguer 5 doigts bien visibles, alignés en éventail avec les marques de griffes nettement imprimées en avant. C'est d'ailleurs un bon indice pour le distinguer du renard ou du chien qui, eux, n'ont que 4 doigts apparents puisqu'ils sont des digitigrades, c'est-à-dire qu'ils marchent sur leurs doigts, contrairement au blaireau qui, lui, est un plantigrade, comme l'ours, par exemple, qui est un lointain cousin du fait qu'il soit aussi un plantigrade, et bien évidemment l'homme. Le blaireau peut vivre à peu près environ jusqu'à 15 ans à l'état sauvage, même si la moyenne est souvent réduite à cause des collisions routières qui est la deuxième cause de sa mortalité. Avant de parler de son régime alimentaire et de son mode de vie, nous allons écouter Poutou Mayo et Sina Awel avec le titre « Amchich ».
Il prend des ongles.
Vous êtes sur CFM et c'était Putumayo et Sina Awel avec le titre Amchiche. Et vous êtes de retour dans l'émission Terre Commune, un rendez-vous qui parle de biodiversité. Je suis Anthony Vieillard de l'entreprise Vulgaris Terra. Avant la pause musicale, je vous ai présenté les caractéristiques physiques du blaireau d'Europe. Maintenant, nous allons parler de son régime alimentaire. Le blaireau est omnivore, donc il mange vraiment de tout. Contrairement aux idées reçues, il ne chasse presque pas de gros animaux. Son alimentation est composée en grande partie de vers de terre. Il peut même présenter jusqu'à 50% de son régime alimentaire, ce qui est assez important. Il consomme, en plus de ses vers de terre, des insectes, des larves, des limaces, des petits rongeurs, des fruits sauvages, des céréales, des bulbes, comme des arômes d'Italie qui poussent un peu partout autour de chez nous, des glands, parfois des œufs qu'il peut trouver au sol, et aussi des charognes suivant les périodes de l'année. Donc il joue un rôle très important dans la régulation des invertébrés, participe à la dispersion des graines et nettoie les sous-bois de charognes qui peuvent colporter des maladies. En termes d'habitat, le blaireau vit dans ce qu'on appelle un terrier, ou plus précisément une blaireautière. Et oui, il a un nom spécifique pour sa maison. Et il ne s'agit pas seulement d'un simple trou. Je vais vous expliquer un petit peu son contenu. Dans certaines blaireautières, qui sont occupées des fois pendant des décennies, voire même des siècles pour certaines qui ont été étudiées, elles peuvent comporter plusieurs entrées, qu'on appelle aussi des gueules, et peut s'étendre sur plusieurs centaines de mètres avec des différentes chambres internes et d'autres pièces adjacentes. On retrouve aussi plusieurs garde-mangers, des salons où les familles se retrouvent avant d'aller en extérieur, On estime qu'une famille de blaireaux peut déplacer jusqu'à 20 tonnes de terre dans ce genre de terrier. Chaque soir, le blaireau sort les feuilles et le tapis douillet qui s'était fait la veille, qu'il avait disposé dans sa couche, afin de le nettoyer. Avant le lever du soleil, il ira rechercher justement des feuilles, des mousses, du lichen, afin de retapisser le fond de sa chambre pour y passer une journée douillette. Alors, qui a dit que les blaireaux étaient bien sales ? Pas moi en tout cas. D'ailleurs, ça me fait penser que les blaireaux font des pots, ou appelés également des latrines, à l'extérieur de leur terrier pour y faire leurs excréments. On peut retrouver ces petits trous autour de la blaireautière, c'est un bon indicateur de sa présence, et ce comportement participe aussi à la dissémination des graines dans le milieu naturel. Maintenant, en termes de reproduction, qui est un petit peu particulière chez le blaireau. Donc, il faut se mettre en tête que le blaireau, il n'est pas solitaire, contrairement à ce qu'on pense, mais plutôt, il vit en famille, en tout cas en clan familial. On va parler plutôt de clan. Le clan peut être formé d'un mâle, mais pas que forcément d'une seule femelle. Alors, dans l'idéal, il y a un mâle, une femelle et les petits. Mais ça, sur des grandes blaireautières, on peut avoir un mâle avec deux femelles, voire trois exceptionnellement, et avec les petits qu'on appelle des blaireautins. La reproduction peut avoir lieu toute l'année et les mâles ont tendance à émettre un cri un peu particulier pour appeler les femelles. D'ailleurs, je vous ai préparé un petit enregistrement afin de vous le faire écouter. Écoutez-moi ça. Nous venons d'entendre le rut du blaireau qui donc appelle une femelle pour la reproduction. Et justement, une fois reproduit, la femelle que l'on appelle la blairelle possède une particularité assez fascinante que d'autres animaux peuvent aussi avoir, comme la biche par exemple. Elle va, la blairelle, faire ce qu'on appelle une diapause embryonnaire. Donc, après l'accouplement, l'embryon peut se suspendre, en tout cas dans son développement, pendant plusieurs mois, afin de s'implanter réellement plusieurs mois après l'accouplement. Cette stratégie permet aux naissances d'avoir lieu au moment les plus favorables de l'année. La gestation réelle dure 7 semaines, mais la période totale entre fécondation et naissance peut dépasser entre 9 et 10 mois à cause de cette diapause. La blairelle donne naissance à 2 ou 3 blaireautins qui naissent aveugles et restent au terrier plusieurs semaines. Ils commencent à sortir vers l'âge de 2 mois, souvent au printemps lorsque les températures remontent, et les blaireautins deviennent autonomes vers l'âge de 3 mois. L'émancipation territoriale survient généralement autour d'un an, surtout chez les jeunes mâles, tandis que certaines femelles restent dans le groupe, voire le clan familial. Allez, je vais continuer de vous parler de Mélès Mélès après le morceau d'Antoine Tato Garcia avec le titre « La Catalane ».
Quieres tocar la rumba como se hace en Cataluña, una guitarra sonando y dos palmas que retumban. Tienes que tener sabor tocando el ventilador. Si no te corre en la vena, eso no lo hace cualquiera. ¿Cómo lo hace Peray? Que yo no mato, no mato, no voy a matar ese gitano fino, 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 filipino. ¿Cómo lo hace Peray? Yo lo mato, lo mato, lo voy a matar. Ese gitano fino, 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 fino. jóvenes de hoy un día tienen ritmo y armonía, sacando las tradiciones con el ritmo que hay un día. Tienen que saber, señores, que son rumberos mayores, porque ellos tienen la llave y lo hacen como nadie. ¿Cómo lo hace Peray? Que yo lo mato, lo voy a matar. Este italo vino, 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 filipino. ¿Cómo lo hace Peray? Que yo lo mato, lo voy a matar. Este italo vino, 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 filipino. Si quieres tocar la rumba, como se hace en Cataluña, tenés que tener sabor. Que yo lo mato, lo mato, lo mato, lo voy a matar. Que yo lo mato, lo mato, lo mato, lo voy a matar. Que yo lo mato, lo mato, lo mato, lo voy a matar. Que yo lo mato, lo mato, lo mato, lo voy a matar. Ese gitano vino. Que yo lo mato, lo mato, lo voy a matar. Ese gitano vino. Que yo lo mato, lo mato, lo voy a matar. Toma, toma, gitanito.
Et vous êtes sur CFM et c'était Antoine Tato Garcia avec le titre La Catalane. Et vous êtes de retour toujours dans l'émission Terre Commune, rendez-vous qui parle de biodiversité. Je suis Anthony Vieillard de l'entreprise Vulgaris Terra. Nous avons donc parlé de ses caractéristiques physiques, de son mode de vie, de son mode de reproduction. Et maintenant, nous allons parler de quelque chose d'assez dramatique. On va parler de la chasse qu'il subit encore aujourd'hui en 2026. Le blaireau est considéré comme un nuisible, encore aujourd'hui. Ce qui fait qu'il est autorisé de le chasser, de le tuer à peu près à n'importe quel moment et à peu près partout. Le pire dans tout ça est la vénerie sous terre, avec l'introduction de chiens qui vont traquer le blaireau dans son terrier pour l'acculer et le chasseur, en tout cas la personne au-dessus, elle va attendre que le chien aboie et creuser au-dessus du chien afin d'extraire le blaireau avec des pinces et de pouvoir l'exécuter. Donc on parle d'un animal qui est quand même nocturne, discret, social, qui élève ses petits sous terre pendant plusieurs mois. Et donc détruire un terrier, c'est souvent condamner un clan entier. Tout cela alors qu'aucune étude scientifique robuste ne démontre que le blaireau est nuisible à la biodiversité. Donc depuis des centaines d'années, en tout cas, on s'amuse, on tue avec ignorance cet animal, alors que vraiment... personne ne peut affirmer, prouver quoi que ce soit. Il y a même dans certains pays, comme la Belgique, qui n'est pas si loin que ça, où le blaireau n'est pas chassé et protégé depuis 30 ans. Et il n'y a pas plus de dégâts, ou en tout cas pas plus de problématiques avec cet animal-là. On parle d'un animal qui est omnivore, donc l'alimentation est composée en grande partie de vers de terre. Il n'est pas en train de... décimer des populations de cailles ou je ne sais quoi encore. La question donc n'est pas écologique mais plutôt culturelle et c'est bien ça qui est malheureux. J'ai un peu de mal encore aujourd'hui à justifier qu'au 21e siècle, en 2026, on peut creuser dans un terrier pour extraire un animal qui ne présente aucune menace pour nos écosystèmes, en fait. Voilà. Ce qui est surtout, en plus, reproché à cet animal-là, c'est de faire des dégâts agricoles. Alors, souvent autour des champs de maïs, on a tendance à voir effectivement des blaireaux qui sont venus creuser pour manger des bulbes, pour essayer de choper quelques épis de maïs, mais vraiment rien de dramatique. On l'accuse également de déstabiliser aussi les talus et les infrastructures. Alors c'est pareil, une blairotière, généralement, c'est assez rare de la voir proche d'une habitation ou proche d'une voie ferrée ou ce genre de choses. Et c'est quand même vraiment assez rare qu'une blairotière mette en péril des fondations de bâtiments, de routes ou que sais-je encore. Et alors l'autre reproche qui lui est fait, c'est la transmission de la tuberculose bovine. Alors bon, qu'on soit d'accord, c'est un fait aussi assez rare, et tout ce que je suis en train de dire, vous pouvez le retrouver des études scientifiques, pour le coup, assez facilement sur Internet, auprès de l'Office français de la biodiversité, auprès de différentes associations. Et à ce jour, donc, comme je le disais, on n'a vraiment aucune étude qui met en avant les méfaits ou qui justifie un abattage cruel de cet animal-là. Au contraire, même, ces études-là, elles prouvent plusieurs choses. Elles prouvent que le blaireau y contribue à l'aération des sols en le creusant avec les blaireautières et en remuant la terre à certains endroits pour chercher les vers de terre et les insectes et les bulbes de plantes qu'il peut manger. Il favorise la biodiversité autour de ses terriers par le fait d'être un architecte de la forêt, avec justement l'hébergement d'autres espèces animales, comme les lapins de garenne, comme certains lièvres qui peuvent venir se réfugier, des renards qui peuvent aussi utiliser des morceaux de galerie pour faire leur terrier. Il régule les populations d'invertébrés, ça on en avait déjà parlé dans son régime alimentaire, et il participe à la dissémination végétale de différentes plantes et organismes végétales. Donc, grosso modo, on n'a pas grand-chose à lui mettre sur le dos, hein, à part juste avoir une espèce de tradition autour de sa chasse et de ce hobby. Avant de finir, j'aimerais vous parler de l'association Blaireau et Sauvage, qui travaille sur le sujet du blaireau, qui font de la science participative incroyable afin de montrer les bienfaits, la beauté de cet animal, tout ce que je viens de vous parler juste avant, des études scientifiques. Ils en mènent et le font de la bonne pédagogie et de jolis flyers, de jolis posters afin de sensibiliser les différents publics qu'ils rencontrent. Donc je vous conseille d'aller voir leur site internet blaireau-et-sauvage.org. Je mettrai leur site internet dans la description de l'émission sur le site de CFM. Je voulais aussi remercier Cyril Desposa, qui est un super photographe animalier et qui a fait un travail formidable sur les mustélidés, et notamment donc sur le blaireau d'Europe. C'est lui qui m'a fourni la photo pour la miniature de cet épisode-là. Je vous conseille fortement d'aller voir le travail qu'il fait sur sa page Instagram, Cyril D-Wildlife. Pareil, je mettrai ses coordonnées dans la description de l'émission. Et il est temps pour moi de vous laisser. Vous retrouverez Rémi Castagnier la semaine prochaine dans l'émission Allo Frelon, mission repeuplement. Et n'hésitez pas à suivre mes actualités ainsi que mes balades sur mes réseaux sociaux et mon site internet vulgaristerra.fr. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle journée ensauvagée et à dans 15 jours. Ciao, bye.